La loi de Dieu nous libère. Après avoir été dégagés de la puissance du Pharaon en Égypte et de l'esclavage, le Seigneur donne sa loi à son peuple. Nous la trouvons dans le livre de l'Exode et nous la retrouvons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, où l'Éternel dit, voilà, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec vous, avec nous, une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parle là face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. De là sont déclinés les commandements du Seigneur. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune des bêtes de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi et vous dites, « Voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui nous avons su que Dieu nous a parlé, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Et si nous continuons à attendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu de feu et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous t'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils mettent en pratique dans le pays que je leur donne dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Au cœur de ces commandements, le Seigneur rappelle « Tu as été esclave au pays d'Égypte. L'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Le sabbat a donc en partie cette fonction de faire bénéficier concrètement le peuple, et en particulier les esclaves, les serviteurs et servantes, de la grande libération opérée par Dieu. Dieu veut un peuple d'hommes et de femmes libres. Alors bien sûr, la structure sociale est nécessaire. Elle prend différentes formes, mais finalement, qui se rejoignent toujours. Mais un jour est donné pour mettre toutes les âmes au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Le sabbat vraiment anticipe sur la libération de tous, que dans le royaume de Dieu, nul ne sera esclave. Tous seront libres, tous bénéficieront du repos de Dieu. Maintenant, la société doit aussi être instruite pour son bonheur à venir. Il ne s'agit pas d'accéder à la liberté, il s'agit aussi de savoir comment vivre cette liberté. Et donc, les commandements principaux seront complétés par de nombreuses instructions. C'est ce qui est dit sur la fin du chapitre. Tu as reçu sur la montagne les tables avec ces 10 paroles, mais reste avec moi et moi je te dirai tous les commandements et tu les transmettras au peuple. Le peuple a bien compris qu'il ne peut pas paraître devant la face de Dieu sans être anéanti par sa sainteté. Personne ne peut demeurer auprès du Dieu vivant et rester vivant. Le Seigneur a fait cette grâce ce jour-là au peuple de voir sa puissance sur la montagne et de ne pas en être frappé. Mais le peuple a bien compris que ça ne pouvait pas être comme cela et qu'il fallait un médiateur, en fait, entre lui et Dieu. Et le peuple a bien compris et le Seigneur approuve cela, hein. Approche-toi, écoute ce que dira l'Éternel notre Dieu, et tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu, nous t'écouterons et nous le ferons. Le peuple se dispose à agir selon les paroles du médiateur. Bien sûr qu'aujourd'hui nous savons qu'il y a un médiateur pour tous les hommes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu et qui a donné sa vie pour nous, qui justement a supporté le châtiment sur le péché de l'homme et à libérer donc de la condamnation. Mais nous ne pouvons pas avoir de relation encore directe avec le Dieu vivant. Étant dans la chair du péché, nous ne pouvons toujours pas supporter la gloire de Dieu. Et par conséquent, c'est Jésus-Christ qui est auprès du Père et qui est médiateur. Il est venu de la part du Père, il a manifesté le Père au milieu de nous, Il a pris le péché, il a été ressuscité, élevé dans la gloire. Et maintenant, c'est lui qui intercède pour nous et qui nous communique sa parole par le Saint-Esprit. Il a donné aux apôtres les paroles nécessaires à l'instruction de l'Église et il nous les applique par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Tout se fait par médiation entre nous et Dieu. Personne ne peut prétendre voir Dieu, entendre Dieu directement, toujours par la médiation de Jésus-Christ. Spirituellement, bien sûr que nous aussi nous sommes affranchis de la vie du péché par l'œuvre de la croix. En étant dans le monde, le Seigneur Jésus l'a affirmé. Jean au chapitre 8. À partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?»« en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce que nous voyons dans ce passage, c'est que c'est la condition de disciple qui nous rend libre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, être libre, déjà, ce n'est plus être dominé par un maître, parce qu'ici, c'est la liberté, l'affranchissement de l'esclavage. Le système de l'esclavage fait que lorsque quelqu'un a un maître, il ne peut pas faire autrement que de le servir. Il ne peut pas décider de partir travailler ailleurs, de faire sa vie comme il l'entend, il dépend entièrement de son maître. C'est la condition même de l'état d'esclave. Et c'était donc une grande chose qu'un esclave soit affranchi et qu'il se retrouve dans le statut d'homme libre. Mais se retrouver dans le statut d'homme libre, ça ne signifie pas être capable de bien vivre, être capable de bien construire sa vie. Il faut découvrir la véritable liberté de l'homme libre. Combien de personnes veulent être libres ? Mais tombe dans toutes sortes d'esclavages. Par la nature même du péché, ils sont séduits, ils sont entraînés et ils deviennent esclaves. Et au plus ils revendiquent d'être libres, au plus ils deviennent esclaves. Donc, pour être capable de bien vivre pour Dieu, nous devons suivre et imiter Jésus-Christ. Vous serez mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc il y a un processus, il y a une déclaration de Dieu lorsque nous découvrons l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ. que nous ne sommes plus sous la domination du péché. Mais nous devons apprendre du Seigneur par sa parole. Nous devons apprendre, on peut dire, notre liberté. Nous devons recevoir les instructions destinées au bonheur des rachetés et à leur utilité, l'utilité du racheté pour Dieu. Parce qu'à quoi servirait une vie bien remplie, bien réussie socialement, politiquement, que sais-je, si elle n'est pas à la gloire de Dieu. Donc nous apprenons par la parole de Jésus et du Saint-Esprit à travers les apôtres, nous apprenons les conditions réelles de notre liberté. Les épîtres, destinés aux assemblées chrétiennes, comprenaient une première partie qui proclame l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, sa grande victoire qui nous ouvre les cieux, et une seconde qui examine la manière de vivre sur la terre selon Dieu. Et l'essentiel pour nous est de recevoir l'instruction, ne pas s'imaginer pouvoir l'inventer nous-mêmes. Que ce soit au regard de l'œuvre libératrice du Seigneur, nous devons comprendre et recevoir ce que Dieu a dit à ce sujet. Nous n'inventons pas la doctrine de la foi. Cette doctrine a été transmise au sein une fois pour toutes, et nous la découvrons, nous l'approfondissons, nous la comprenons de mieux en mieux, mais nous n'inventons rien de cette vérité de l'œuvre de Dieu. Nous recevons, nous comprenons de mieux en mieux. Ou alors, concernant la manière d'agir au sein de ce monde, entre nous, ou à l'égard de la société, ou à l'égard du prochain, là aussi, nous avons des instructions à recevoir du Seigneur afin de les mettre en pratique et qu'elles participent à notre bonheur. Dans l'Épître aux Corinthiens, il y a le chapitre 15 qui commence ainsi. Ce grand chapitre au sujet de l'espérance de la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, et voilà. Concernant le Seigneur Jésus, la vérité de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, les apôtres ont été chargés, l'apôtre Paul en particulier, ont été chargés de l'annoncer. Et donc de là découle toute l'instruction de l'apôtre concernant la résurrection, les implications de la résurrection du Christ dans notre espérance. Mais au chapitre 16, le début, nous trouvons aussi des instructions, mais d'un autre genre. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Et ainsi de suite. il y avait une instruction précise au sujet de la raison et la manière de faire la collecte. Vous voyez, de réunir les effets de la solidarité. L'apôtre a donné des instructions à ce sujet. Et dans bien d'autres domaines, eh bien, l'Église vit encore sous le régime des instructions données par les apôtres. Et c'est ainsi que l'Église peut vraiment prospérer, se développer, et qu'une harmonie peut exister dans les relations entre chrétiens lorsque cette parole est bien prise au sérieux. Un peu plus loin, au verset 15 à 17 encore, une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas, c'est les prémices de l'Asie, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. C'est encore une instruction concernant les relations entre les enfants de Dieu. Les sentiments d'estime à cultiver. Et ce n'est pas rien que au sein des églises, il y ait cette façon d'appréhender, d'être capable de reconnaître l'œuvre de chacun. Tout ne se vaut pas dans ce qui est fait et dans les engagements des uns et des autres. Eh bien, certaines actions, certains comportements peuvent être valorisés et doivent être reconnus comme étant plus authentiquement l'œuvre de Dieu en quelqu'un ou par quelqu'un. Encore donc une recommandation, une instruction, et ainsi de suite. Et si nous parcourons les épîtres, les évangiles, parce que le Seigneur lui-même a donné ses instructions d'abord, et ensuite les épîtres, eh bien, nous apprenons à bien vivre notre liberté d'enfant de Dieu. Nous sommes des enfants obéissants, sages, dignes dans leur conduite, qui grandissent, qui prennent les bonnes orientations, qui ont une bonne influence autour d'eux. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut nous instruire après nous avoir libérés par une action qui nous échappe totalement, que nous ne pouvions absolument pas faire, c'était le rachat de nos fautes. Jésus-Christ crucifié pour nous, portant le châtiment de nos péchés et nous libérant ainsi de l'esclavage du péché. Mais une fois cela accompli, eh bien, une fois cela reçu par nous, eh bien, cela se poursuit par les instructions du Seigneur concernant tout ce que nous ne ferions pas naturellement, mais que nous sommes rendus capables de faire, ayant été affranchis du péché. Et nous marchons alors dans la sainteté de Dieu, dans une vie glorieuse et satisfaisante pour nous. Le Seigneur ne veut pas nous frustrer. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans le dépit, dans l'insatisfaction. Au contraire, Le Seigneur veut nous donner une vie remplie de conviction, de force, d'assurance. Mais pour cela, il nous demande d'entrer dans ses plans à lui, dans sa vérité à lui, dans sa vision de la vie. Et si nous le faisons vraiment, nous serons heureux. Amen.